One, two, three, ho!
Je suis tombé dans un rond-point. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. J'avais l'arcade sourcilière toute coupée. Et puis j'avais le sang qui pissait. J'avais les gens derrière qui klaxonnaient. Ils disaient ouais, oh, faut que j'aille au travail, tu te pousses.
Le gars, il est en train de crever, il est en sang. Et t'as les mecs en bagnole derrière. Ouais, bon, Jean-Pierre, là, tu fais chier, là.
Voilà, c'est ça, exactement.
Les bâtards. Non. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission consacrée au vélo utilitaire, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission qui sauve la planète. Et d'ailleurs, à propos de planète, à propos de monde, on est avec Cyclo Mondo, Geneva Cycling, avec Bruno et James. Comment ça va les gars?
Bah ça va bien.
Très très bien Eric, toi?
Heureux, épanoui, tout va bien. On est dans les studios de Radio Bany et c'est extrêmement confortable d'enregistrer ici avec Laurent et Jérémy qui est derrière les boutons. Alors, Geneva Cycling, on va faire rapide, qu'est-ce que c'est?
En fait, Geneva Cycling, c'est une nouvelle marque. C'est une nouvelle marque de Cyclomundo. Cyclomundo, c'est un tour opérateur qu'on a créé il y a 17 ans, en fait. Et l'idée, c'était de faire pédaler, faire découvrir la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne à des touristes étrangers en itinérance. Donc, on leur organise des séjours, on leur fournit les vélos et on s'occupe de toute la logistique, du transport de bagages. Et en fait, il y a quelques années, on voulait vraiment travailler, parce qu'on habite sur un territoire extraordinaire, hein, le bassin lémanique. On voulait travailler sur le côté local et faire découvrir aux locaux, mais également aux Européens d'à côté, notre territoire. Et on n'avait jamais eu le temps de le faire. Et on ne va pas dire merci Covid, mais...
On peut. Moi, je le dis régulièrement.
Bon, voilà, quoi. Donc, on a utilisé notre temps, parce que vu qu'on n'a plus d'étrangers voyageant avec nous, pour développer ce concept de Geneva Cycling et faire découvrir la région aux locaux. Et on sait, avec James, je pense qu'il va pouvoir le dire, on s'est beaucoup amusé à trouver des tas d'itinéraires et on a découvert plein de choses.
D'ailleurs, un de ces quatre, avec l'équipe de Pause Vélo, on fera un petit tour avec vous, les gars.
Sans problème.
Avec plaisir.
Rien de tel pour... Avec plaisir. Ce sera super.
Alors, dis-moi si j'ai bien tout compris, James. Oui. L'idée, c'est, admettons, moi, je suis espagnol, j'ai envie de faire un tour en Allemagne. Cyclomundo me file un coup de main là-dessus, c'est ça?
Ah bah, en Allemagne, pour le moment, c'est pas possible parce qu'on a qu'en Italie, en Suisse, en Espagne et au Portugal. Mais voilà, en fait, nous, du coup, ici, on est agence réceptive. Donc, ça veut dire qu'on organise la location de vélos, on organise aussi tout ce qui est logistique, le transfert de bagages, etc. Et puis, ailleurs, on travaille avec des autres agences réceptives.
Je sais, vous allez pouvoir me filer un coup de main. Cet été, ça va être hyper compliqué encore, j'ai l'impression, de se déplacer avec ma petite famille. Donc moi, ma femme et ma fille, on a deux vélos, plus la remorque derrière chez moi, derrière mon vélo, qui n'est pas électrique, donc j'ai besoin d'avoir du plat. J'aimerais bien faire le tour du lac de Constance. Et on m'a dit qu'il y avait moyen de se faire transporter tout le matos. Moi, je prends le train avec ma petite famille et j'arrive. Et il y a mon vélo, celui de ma femme et puis la carriole. Vous faites ça, vous?
Ça, on peut le faire. On le fait généralement pour des petits groupes, mais oui, ça, on le fait. Ouais. Le lac de Constance, d'ailleurs, ouais, c'est super. Hein,
ouais, c'est plat.
Ouais. Et c'est, je crois, la piste cyclable la plus usitée au monde, je crois.
Ah ouais? Le tour du lac?
Je crois, ouais. Je crois avoir entendu ça. J'ai assisté à quelques salons. Hein. C'est un petit monde, hein, le monde du vélo. Donc, on a des réunions. J'ai eu des réunions à plusieurs reprises à Constance. Et je crois que c'est... Il y a des bouchons, en fait.
Ah ouais, c'est peut-être pas si funky que ça. L'année dernière, j'ai fait le tour du lac d'Annecy. Aux abords d'Annecy, il y avait aussi des bouchons. Bon, une fois qu'on est un peu plus loin, les non-sportifs, les non-électriques, ils ont plus de mal. Donc, on retrouve un peu de liberté. Mais c'est vrai que c'est la contrepartie. Ça se développe tellement maintenant, les vacances à vélo, le vélo, qu'on commence à avoir des embouteillages, quoi. C'est ça la difficulté. Ouais. Tu disais tout à l'heure, Bruno, que vous faisiez aussi... grâce à Cyclomundo, du team building pour les entreprises.
Oui, alors l'idée, c'est qu'on a développé, en fait, on a développé des excursions à la journée, ce qu'on appelle de la micro-aventure, donc de l'aventure sur deux jours, sur deux ou trois jours, des choses où, en fait, on ne s'imagine pas qu'en deux ou trois jours, on peut se sentir vivre une aventure, franchement. Et pour les entreprises, effectivement, ces excursions, on peut les décliner pour du team building, ou pour des familles. Je pense qu'après le Covid, on aura tellement besoin de recréer du lien. Et je pense que le vélo, c'est absolument extraordinaire de ce point de vue-là. Enfin, on crée, c'est un lien, c'est un sujet de conversation, c'est un moyen de découvrir une région. Donc oui, ça s'adapte très bien pour les entreprises. Alors, on en a fait quelques-unes, mais je pense que c'est appelé à se développer. Ouais.
Alors, on va continuer de parler des vacances à vélo avec Papa Cyclette. Et après, je vous propose, les gars, qu'on parle du plaisir qu'on a à faire du vélo. Et peut-être que grâce à Cyclomundo, Geneva Cycling, il y a des gens qui découvrent le vélo et qui ont envie d'en faire.
Papa,
c'est
Papa
Cyclette.
Tu me racontes une histoire ?
Une histoire de quoi ?
Bah, une histoire de vélo. Épisode 3, choisir sa tente pour le vélo. Dis, Papa Cyclette, comment on choisit sa caravane pour partir à vélo ?
Oh, doucement, on voit que c'est pas toi qui tire tout ça. D'ailleurs, l'an prochain, hôtel 4 étoiles, et comme ça, plus de problèmes.
Un hôtel avec piscine ? Chouette !
Non, je plaisante. La tente, c'est pas mal aussi.
Si on veut. Alors, comment on choisit sa tente ?
Bonne question, mon petit. Un des premiers critères sera la taille, souvent proportionnelle au poids. Et comme je suis un génie des maths, si on est tout seul, on prend une tente, une place. Si on est deux, une tente, deux places. Et si on est quatre ?
Une tente, quatre places, on a compris. C'est vrai qu'on frôle le génie.
À titre personnel, on a voyagé avec une tente trois places à deux. Ça rajoute du poids, mais on gagne en confort avec davantage de places. Désormais à quatre, on a une tente quatre places, car on a suffisamment à porter.
Pourquoi les tentes, c'est comme Vivaldi ? Il y en a une pour chaque saison.
Quelle culture ! On voit bien que je suis ton père. Une tente 3 saisons sera suffisante la plupart du temps. Une tente 4 saisons sera plus costaud et résistera à des forts vents, des températures négatives et aussi à des fortes accumulations de neige. Ce sont des tentes d'alpinisme, si on souhaite synthétiser. Les tentes 2 saisons, quant à elles, sont réservées au voyage estival et à des températures clémentes.
Quels sont les critères importants pour choisir une tente ?
L'abside est un vrai plus. Cela correspond à l'espace à l'extérieur de la tente, mais qui reste à l'abri. Très utile pour manger à l'abri, laisser ses sacoches, voire son vélo pour certaines tentes à l'abside immense. Pour éviter la condensation, une ventilation sera nécessaire. De nombreuses aérations seront un plus non négligeable, surtout si vous dormez à plusieurs. Pour une utilisation en été, des chambres avec juste une moustiquaire existent. Concernant l'imperméabilité, une tente avec double toit sera intéressante. Elles équipent la plupart des tentes d'aujourd'hui. Un minimum de 3 à 5 000 mm sera conseillé, voire 10 000 si vous bivouaquez l'hiver ou en haute altitude. On dit d'une tente qu'elle est autoportée quand les arceaux arrivent au coin de la tente, lui permettant de tenir toute seule. Pratique pour déplacer rapidement sa tente, pour dormir sous un abri par exemple, ou bien dormir sur un sol dur dans lequel on peut difficilement planter des sardines.
On va planter des poissons ?
Non, les sardines sont les piquets qui permettent de maintenir la tente sur le sol.
Et le poids ?
Pour une tente estivale, comptez entre 1 et 2 kg pour une tente 2 personnes. Moins de 3 kg pour une tente 3 personnes. Pour une tente 3 à 4 saisons, il faut compter entre 2 et 3 kg pour une 2 places et un peu moins de 4 kg pour 3 places. Pour un voyage au long cours, il vaut mieux une tente plus spacieuse, car le kilo supplémentaire sera appréciable en cas de mauvais temps. Certaines marques peuvent être recommandées, comme Vaud, MSR, Ferino. A noter que les tentes Décathlon font également très bien le job si on est un peu précautionneux et que les conditions rencontrées ne sont pas trop extrêmes.
Un petit plus ?
On transporte une petite bâche de sol à mettre sous la tente. Cela sert pour l'isoler du sol et éviter d'abîmer la tente en frottant sur les cailloux. En cas de forte pluie, cette surépaisseur est appréciable, mais attention à bien la tendre pour éviter l'apparition de poches d'eau qui risquent de traverser la chambre.
Alors, on sait tout ?
Oui, ça y est, tu sais tout.
Bon voyage, Papa Cyclette.
Ah, le truc à éviter à tout prix, vraiment, c'est la tente 2 secondes. Quand on part en vacances avec le vélo, parce que la tente 2 secondes, c'est peut-être très pratique, mais alors la taille que ça a, la place que ça prend sur un vélo, c'est mort. On peut trouver des tailles de tentes qui sont à peu près équivalentes, une fois dépliées, mais une fois repliées, qui font la moitié. Ça alors là, je conseille à tout le monde pas de tente 2 secondes.
C'est bivouac, oui.
Ouais. Un truc qui me fait marrer, moi, qui fait peut-être pas marrer tout le monde, mais que les gens aiment bien écouter, les chutes à vélo. James, Bruno, c'est quoi vos dernières gamelles ?
Moi, c'était en janvier. C'était un jour un peu comme ici, il fait très très beau. Et je me suis dit, allez, je vais faire 80 km. Et j'ai réussi à la faire malgré le gel qui était par terre. Et 500 mètres de chez moi, j'ai pris un virage un peu trop vite et j'ai glissé un beau 15 mètres comme ça. Et puis, heureusement, j'étais bien protégé. J'ai rien bleu, mais ouais, il y avait quelques gens dans la rue qui m'ont vu, qui m'ont dit pas de chance.
Ah, ils t'ont applaudi, ils ont rigolé? Non, ils ont juste pas de chance.
On peut rigoler, mais ouais, quand ils ont vu que j'ai rien quand même.
Ouais. Ça va, c'est des gens gentils. Et toi alors, Bruno, c'était quoi la dernière gamelle?
Ah, la dernière gamelle, vraiment la dernière gamelle, c'est un petit peu comme celle de James, en fait, c'est sur le verglas. Et en fait, c'est vrai que c'était dans un virage. Depuis, je roule l'hiver avec des pneus à clous, mais je suis tombé dans un rond-point. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris, j'avais l'arcade sourcilière toute coupée, et puis j'avais le sang qui pissait. Et j'avais les gens derrière qui klaxonnaient, disaient « Ouais, faut que j'aille au travail, tu te pousses !»
Le gars, il est en train de crever, il est en sang, et t'as les mecs en bagnole derrière. Ouais, Jean-Pierre, là, tu fais chier, là.
Voilà, c'est ça, exactement.
Les bâtards.
Non, mais je suis tombé quand même sur deux personnes qui étaient extraordinaires, qui m'ont fait le pipancement, qui se sont vraiment très bien occupés de moi.
Ah, ça va, sauvé, même pas mort. Ouais. C'est dommage, on a Laurent qui s'occupe de Radio Manie, où on enregistre, quand j'ai posé la question de la dernière gamelle, il m'a montré ses mains. Il avait encore des croûtes sur les mains. Là, il est parti chercher à manger, donc tant pis, on aura son histoire un autre jour quand on reviendra enregistrer ici. On va toujours continuer à parler d'amour du vélo. Est-ce que vous pensez que en faisant faire du vélo comme ça pour les vacances ou pour les entreprises, ça va amener des gens qui peut-être font du vélo comme ça, pas pour la première fois, mais qu'on fait pas régulièrement, à faire ça, quand ils font ça, ce que vous faites avec Geneva Cycling et Cyclomondo, ils se disent « Ah, peut-être que je pourrais prendre mon vélo un peu plus souvent ». Ça marche, ça
Moi, je peux répondre. Après, je te laisse parler, James. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors moi je suis vraiment persuadé que les gens, ils s'imaginent même pas. Ils s'imaginent même pas qu'ils peuvent faire autant aussi vite et aussi loin à vélo. Et une fois qu'ils arrivent à concevoir qu'ils peuvent au moins utiliser la voiture et faire tout à vélo et ressentir le bien-être qu'on ressent, enfin nous on le sait tous, en fait la partie est gagnée. C'est des gens qui se mettent au vélo. Ouais. Et ça, oui, j'en suis intimement persuadé. Et je pense que ça fait partie de... J'ai pas envie de dire ma mission, mais c'est un peu... Ça fait partie de ma motivation, la raison pour laquelle je voulais vivre du vélo. C'était aussi un peu ça. C'est un peu faire découvrir le vélo à d'autres personnes pour que la pratique voilà, devienne plus commune. Moi, je suis un croyant.
Toi aussi, tu prêches la sainte parole vélocipédique. James, tu penses pareil?
Ouais, c'est sûr. Là, on a eu des retours, par exemple, des gens qui ont fait une excursion avec nous et que quelques semaines après, ils nous disent tiens, maintenant, je me déplace toujours à vélo, je vais du vélo taf. Et c'est ça le but. Non, c'est. On veut. Enfin, ouais, c'est. Voilà. Le vélosophie, quoi.
On avait une idée d'émission qu'on fera un jour, un de ces quatre, si on a le temps un jour, il y a tellement de sujets à traiter, sur comment faire pour faire aimer le vélo aux autres. Et je pense que le fait de vivre un bon moment en groupe, ou le fait que toi, t'es militant pour le vélo, puis t'es un pote qui est pas trop cycliste, mais tu dis, tiens, j'ai un vélo en plus dans le garage, viens avec moi à faire les courses. Et puis qu'on se réapproprie le vélo une nouvelle fois, et puis qu'on se dit, oui, finalement, c'est un bon moyen de déplacement, c'est un truc qui marche, hein. C'est un truc qui marche.
Ouais, complètement. Enfin, je pense que c'est-à-dire que je suis complètement d'accord. Enfin, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre, si ce n'est que c'est un peu ça. C'est s'apercevoir aussi qu'au quotidien, on fait du vélo. Et en fait, quand on sait s'organiser, c'est un gain de temps énorme, quoi. On a un bien-être. On n'a pas besoin d'aller à la gym, on n'a pas besoin d'aller bien des fois chez le médecin parce qu'on n'a pas de, on a beaucoup moins de douleurs, on a beaucoup moins de petits problèmes. Enfin, le vélo, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale à l'arrière. Enfin, c'est l'un dans l'autre, hein, c'est un gain de temps. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à traduire ça en mots tellement dans ma tête c'est clair, mais pour le traduire en mots c'est difficile. Mais ouais, c'est extraordinaire le vélo.
Alors je sais pas si à Cyclomondo vous organisez des voyages au pôle Nord, mais on a la chronique du Yak. Et la chronique du Yak, ça nous parle justement d'aventuriers un peu fous furieux qui veulent partir au pôle Nord à vélo.
« Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire un peu folle, celle d'une équipée qui a tenté l'arrivée au pôle Nord à bicyclette, sur la banquise. En réalité, il n'y a que la littérature qui a réussi à atteindre le pôle Nord à bicyclette et également le pôle Sud. À bicyclette, sur une banquise, sans chien et en autonomie complète, il faut faire léger et vite. D'autant que cette année-là, la banquise est couverte de neige. Ainsi, l'expédition s'engage-t-elle tête dans le guidon en emportant le strict minimum. Des habits de montagne à la place du matériel polaire nécessaire, soit 5 couches de vêtements spécifiques pour le haut du corps, 4 pour le bas et 3 paires de gants. La nourriture lyophilisée, pauvre en calories, est rationnée. On emporte des tempes légères alors qu'il fait moins 35 degrés dehors et encore moins 28 à l'intérieur. Quant aux pieds, certes au chaud, ils furent emmitouflés dans des bottes bien trop larges pour des pédales de vélo, des sorelles ou des traditionnels kalmouks aux semelles trop lisses pour adhérer. Nos cyclistes parcourent seulement 150 km sur un total d'environ 500. Jusqu'à la mine Polaris, ils couvrent 10 km par jour au lieu des 30 prévus, en poussant leur vélo la plupart du temps. Le dos de travers ou en tractant tour à tour la luge, deux options aussi rudes l'une que l'autre. 10 jours de préparation à un résolu de baie, pas une minute d'une véritable acclimatation au froid, comme si au fond, étrange paradoxe, il s'agissait de finir au plus vite ce maudit challenge. Selon Francis Parel, l'expédition aurait pu être pédalée dans son intégralité, mais seulement avec une assistance de motoneige. Tous les membres de cette mission impossible avaient, sans se l'avouer, déjà perdu le nord, avant même de poser leurs roues sur la banquise. Cependant, ces fanfarons avaient succombé face à la caméra et aux sponsors. Ils avaient alors signé sans bravoure l'improbable histoire du pôle Nord à vélo. Ce fut l'unique tentative dans les annales polaires, et en dépit de son échec, elle reçut à son retour un étrange tapage médiatique. Gelure, peur, découragement, l'équipe emmenée par Francis Parel a dû renoncer. Récit d'une galère, titre l'illustré du 24 avril 1991. Pour mieux apprécier le sous-équipement de cette expédition, rappelons que Francis Parel s'y est rendu à nouveau en 1996 avec 15 chiens de traîneau tirant 500 kg de paquetage pour 3 semaines de déplacement aller-retour, soit une distance totale de 1200 km. Et cette fois-ci, le succès de l'expédition fut total. Benchley, un écrivain humoriste américain au flegme incarné, rappelle, lui, d'une plume facétieuse à travers sa virée homérique, que la littérature invite à un voyage sans frontières et sans destination. Une incandescence qui réchauffe le cœur du lecteur, le fait fondre et dériver toujours plus loin. L'imaginaire permet à chacun de casser la glace et de se perdre de vue. Et pour cela, nul besoin de perdre la face ou les orteils. Cycliste amateur de première, n'ayez pas froid aux yeux, mais dépêchez-vous, le pôle Nord magnétique dérive et s'éloigne.
Alors, il y a quelques années, je suis allé pas très loin du pôle Nord. Je suis allé au Svalbard, c'est une archipel qui appartient à la Norvège, qui est tout au nord, tout au nord. Et là-bas, on nous a raconté qu'il y avait des Espagnols un peu furieux qui étaient arrivés avec leur moto et qui avaient décidé, avec leur moto, de traverser toute la calotte polaire pour atteindre le pôle Nord. Et évidemment, c'est pareil, ils n'y sont pas arrivés non plus, quoi. Parce que à partir du nord du Svalbard jusqu'au pôle Nord, en fait, il y a 1500 km, je crois, puis c'est même l'été, tout est glacé, quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui essaye des trucs un peu fous, mais ça ne marche pas toujours. Hein. Mais ceci dit, hein, les gars dont Claude Martalère parle, c'est quand même des héros. Hein. Faut quand même oser y aller. Hein. Tu te dis, bon, je prends mon vélo, je vais au pôle Nord. Ouais, bon, même si ce n'est pas préparé, c'est pas pour moi ça. Allez, on va continuer à parler de vélo avec Cyclomundo Geneva Cycling. Vous voulez parler de gravel, les gars. Qu'est-ce que vous faites autour du gravel à Cyclomundo?
Eh ben, en fait, pour nous, c'est une nouvelle pratique. Enfin, James est également un fervent adepte. Et en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir... Enfin, moi, j'aime toutes les pratiques, hein, que ce soit la course, le déplacement, le voyage. Et je trouve que le gravel, c'est un peu la communion de toutes ces pratiques. Ça permet de tout faire, d'avoir un seul vélo très polyvalent. Et donc, on s'est aperçu que le territoire, avec la montagne du Salève, avec les vignobles, avec les terrains agricoles, avec toutes les rivières, les sentiers près des rivières, c'était un terrain extraordinaire pour le gravel. Donc c'est quelque chose, on est devenu, je ne sais pas si on peut parler d'amour pour le gravel. c'est une pratique, voilà, je suis venu ici en gravel, je vais repartir en gravel, et puis je risque de rallonger pour retourner au bureau, parce que si on trouve un petit chemin, bon, on a fait tout à l'heure un petit chemin le long de l'Arve, le long de la rivière, parce que c'est génial, quoi.
Mais alors, je me demandais un petit truc, parce que dans les années 90, on parlait de VTC, vélo tout chemin. Finalement, le gravel, c'est ça? C'est un autre nom pour le VTC ou quoi?
Ouais, moi je pense que c'est quand même beaucoup plus polyvalent, parce que le fait que maintenant on ait des freins à disque, hein, donc on peut mettre de gros pneus sur du vélo de course, mais du vélo de course quand même dont le guidon a été adapté. Donc on a quand même un panel de positions sur le vélo qu'on n'avait pas en VTC, qu'on n'a pas forcément en VTT. Enfin, moi, je trouve que c'est... il y a beaucoup de gens, quand j'en parle, qui me disent « mais c'est du marketing ». Et en fait, non, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer pour comprendre que c'est probablement l'ultime développement du vélo, quoi. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose après, parce que je trouve que c'est le vélo parfait, quoi.
C'est vrai qu'on a atteint les limites. On entendait Claude Martaler qui parlait. Lui, il aime bien dire que le vélo, c'est bon, on a atteint le top. Ouais. On peut maintenant avoir des nouveaux matériaux pour que le vélo soit plus léger, parce que c'est quand même ce qui compte. Hein. Mmh. On fait du vélo pas pour transpirer, on fait du vélo parce que c'est un moyen simple de se déplacer, mais si la technique peut nous aider. Et Claude Martaler, lui, dit que... ça y est, on est au top. Hein. De temps en temps, on voit qu'il y a les pédaliers, au lieu que ça soit rond, ils sont ovales. Ça ressort tous les 15 ans, ce truc-là.
Ouais, c'est sûr.
Bon, c'est un peu du... Mais alors, le gravel, moi qui ne suis pas un pratiquant de gravel, puis qui vois ça aussi un petit peu comme un truc marketing, ben, c'est pas la première fois qu'on me dit que des gens proches comme toi me disent que c'est quand même génial. Mmh. Du coup, peut-être que je vais essayer un de ces quatre.
Ouais, écoute, on te prête un gravel, on prépare un petit parcours... ce qu'on appelle entre Arves et Salève, la rivière de l'Arves et puis la montagne du Salève. Et puis, on va te faire découvrir, tu deviendras accro. Ouais.
Alors, on parle beaucoup vélo dans le monde francophone, en pause vélo, parce qu'on parle tous français. Mais j'aimerais bien savoir, on va profiter d'avoir un anglophone. Donc, James, tu viens d'Angleterre, tu viens du Royaume-Uni, parce que ça se trouve, tu es écossais.
Moi, je suis anglais.
T'es anglais, d'accord. Comment ça se passe? Parce que voilà, on sait qu'en Suisse, en France, en Belgique, le vélo, ça explose. On a des petits échos que le monde entier est en train d'acheter des vélos en ce moment. Comment ça se passe en Angleterre? Est-ce que les politiques s'investissent dans la question? Est-ce qu'il y a une explosion du nombre de cyclistes? Tu sais, toi?
Là, justement, il y a une explosion en Angleterre aussi. Ils ont pas mal investi, comme ici en France, France et Suisse, dans le vélo, dans les aménagements en ville, par exemple. On a, je suis pas très d'accord avec la politique de notre premier ministre, mais pour le coup, il se déplace à vélo, donc ça encourage les gens aussi. Après, on n'a pas le même météo en Angleterre, donc ça.
Oh, ça, c'est pas une question de météo. Tu vois le Danemark et puis la Hollande qui sont au même niveau que autant au nord que l'Angleterre, ils en font beaucoup. Donc je pense que non, tu penses pas?
Non, je pense, t'as raison, il y a des gens qui se déplacent, quoi que ce soit le météo, mais c'est-à-dire que parfois, des Anglais, on peut dire, il pleut, je pense, je vais prendre la bagnole quand même, mais je suis pas d'accord avec ça.
Il y a le centre-ville de Londres, où on a vraiment chassé la voiture, où il y a les barrages payants,
c'est ça,
est-ce que c'est efficace, ça?
Je pense que de plus en plus, surtout avec tout ce qui est confinement, le Covid, etc., il y a beaucoup de monde, comme ici en France, qui maintenant se déplace à vélo, qui se sont dit, il y a beaucoup moins de voitures sur la route et du coup, ils se sont plus sécurisés pour se déplacer à vélo.
Et en France, en Suisse, en Belgique, il y a plein d'associations. Le monde militant pour la promotion du vélo est très organisé en association. Est-ce qu'il y a l'équivalent de Pro Vélo ou de la FUB en Angleterre?
Ça, je ne saurais pas le dire, mais j'imagine que oui, il y a ça.
D'accord. Eh bien, tant mieux. je propose qu'on retrouve Frédéric Héran. Il y a quelque temps, on l'avait interviewé et l'interview s'était tellement bien passée que finalement, je m'étais dit il y a trop de trucs à garder. Donc, j'ai découpé l'interview en plusieurs parties. Et du coup, on va retrouver la deuxième partie de son interview. C'est Frédéric Héran. Bonjour Frédéric, comment ça va?
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir au bout du fil parce que j'ai été passionné par votre livre « Le retour de la bicyclette ». Et si on extrapole un peu votre livre, qu'on fait de la prospective, quand est-ce qu'on peut imaginer le véritable retour de la bicyclette?
Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, quand j'ai sorti ce livre, j'imagine à la fin du livre, dans le dernier chapitre, que un retour du vélo assez fort et... j'avais quelques doutes. Je me disais, est-ce que j'y vais pas un peu trop fort? Est-ce que je... mais pas du tout, puisque en fait, tous mes pronostics sont déjà dépassés.
Merci Covid.
Oui, alors évidemment, exactement, à cause des crises. Et les crises, il y en a en fait de toutes sortes. Par exemple, la crise, la grève des transports publics en décembre 2019 a boosté la pratique déjà. Dès qu'il y a une hausse des prix du pétrole, évidemment, ça booste la pratique. Dès qu'il y a un attentat dans le métro ou dans un lieu fermé, les gens ne veulent plus rentrer dans le métro ou dans des lieux fermés, ils redécouvrent le vélo. J'ai écrit un petit article là-dessus sur le vélo, ce mode de déplacement super résilient. Ce petit article, il explique qu'au cours de l'histoire, le vélo a toujours connu finalement un regain d'intérêt pendant les crises, notamment les guerres notamment. Vous voyez, il y a eu comme ça plusieurs épisodes assez croustillants où on découvre à chaque fois une nouvelle facette du vélo. Donc, par exemple, pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale, on a découvert que le vélo, pour les résistants, c'était absolument l'idéal. Parce que c'est furtif, ça ne fait pas de bruit, ça va vite, on ne se fait pas remarquer. Et le champion de cela, c'était Gino Bartali, en Italie. Il faisait semblant de s'entraîner pour... Vous savez, il a gagné le Tour de France juste avant la guerre, et puis il a gagné à nouveau le Tour de France juste après la guerre. Pendant la guerre, eh bien, il a transporté des faux papiers pour les Juifs. Et on estime qu'il a au moins sauvé 800 juifs grâce à son entraînement fictif qui correspondait en fait au fait de donner des papiers à des juifs qui fuyaient l'Italie nazie.
Oui, on se souvient de ça d'ailleurs, il y avait la radio, Radio Cycliste, c'était « Les cyclistes parlent aux cyclistes !» C'est ça, hein?
Si vous voulez, oui, c'est ça. En tout cas, vous voyez, les crises favorisent toujours le vélo. Évidemment, la dernière crise, elle est extraordinaire parce que personne n'avait prévu que le vélo soit, comme on dit, un geste barrière. Il va finir par s'imposer. À quelle vitesse, j'en sais rien, ça va dépendre en fait des crises, et si elles sont rapprochées ou pas. Si on a des crises rapprochées, vous verrez, le vélo va s'envoler, mais et tout le monde dira, et on commence déjà à le dire, pourquoi on n'a pas fait plutôt des aménagements cyclables, des super pistes cyclables, etc., etc.
En tout cas, vous aurez toujours votre place dans Pause Vélo. Quand vous voulez intervenir, on vous ouvre les portes en grand. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt.
À bientôt, oui.
Ouais. C'est maintenant qu'il faut agir pour le vélo, sinon on va regretter. Il faut mettre des pistes cyclables partout, c'est ça qu'il faut. Alors comment on fait pour retrouver Geneva Cycling Cyclomundo? Comment on fait sur Internet?
C'est très simple, on a deux sites. On a Cyclomundo, cyclomundo.com pour les voyages au long cours, les voyages en itinérance. Il y a une section en français. Et puis on a un autre site, donc plus local, c'est genevacycling.com.
Très bien.
Vous pouvez nous contacter, info ou bruno@cyclomundo.com. Et on vous répond rapidement.
Eh ben c'est bien, c'est cool. Moi, j'en ai marre des trucs où j'écris et puis qu'on me répond pas. Ah, ça, c'est bien. On se quitte en musique avec Fanny de Poule. Le titre, c'est Les miettes sur le canapé. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de parler de Pause Vélo, de prêcher la sainte parole vélocipédique autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!
Il y avait des miettes sur le canapé. Une cigarette écrasée dans le fond d'un cendrier, quelques verres de tequila renversés sur le parquet, une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées, y avait des restes pour l'heure du dîner. Une belle assiette emballée dans du papier d'alu doré avec une drôle d'odeur qui débordait sur les côtés. La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié, y avait des cheveux dans le lavabo. De brosses à dents enlacées, un dentifrice saveur coco, quelques bouteilles de parfum alignées comme des dominos, une lettre écrite à la main avec des insultes au verso. Y avait trop d'eau dans le gaz et pas assez dans le vin, c'était écrit en majuscule. Tu n'es pas tout, je ne suis pas rien, les moments tombés dans mon corps. J'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes. Des braises dans la cheminée et les cendres d'une histoire qui était partie en fumée. Une boîte fermée à clé était déposée dans le feu. Sur le couvercle s'était gravé nos plus beaux souvenirs à deux. Il y avait des larmes sur un oreiller et des rêves collés au plafond par centaines et par millions. Les rancœurs d'un amour blessé, les reproches.
proche pas digéré qui ressuscitait dans le noir. Une fois la nuit tombée, il y avait du vent dans les marronniers qui faisait danser les feuilles dorées par